Il est midi, Info Week-end avec Lionel Sabot.
Le Premier ministre confirme que l'État a versé 18 des 27 milliards d'aides à la Nouvelle-Calédonie. François Bayrou et Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, ont écrit aux élus calédoniens. Gare au mauvais comportement sur la route durant les fêtes, la police nationale lance un avertissement aux conducteurs qui utilisent notamment des systèmes de sonorisation surpuissants. Dernier week-end avant la Saint-Sylvestre, crevettes, huîtres et langoustes, les sardes du réveillon s'arrachent chez les poissonniers. Reportage dans le journal. François Bayrou décale son déplacement à Mayotte de 24 heures. Le chef du gouvernement est finalement attendu demain soir sur l'archipel de l'océan Indien. La multiplication des incidents sur les câbles sous-marins en mer Baltique, l'Union européenne pointe du doigt la Russie. L'Allemagne demande des sanctions à l'encontre de Moscou. Le sport et le tennis avec le coup d'envoi ce matin du BNC Tennis Open sur les cours du Wentoro. Les premiers matchs de qualification sont en cours. Et puis de la voile et la Sydney Hobart qui se poursuit. Les Calédoniens à bord de Pulpito sont à un peu plus de 200 km de la ligne de l'arrivée en Tasmanie. Et soyez les bienvenus dans ce journal. Ce midi encore, l'actualité politique fait la une. François Bayrou, le Premier ministre, et Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, ont donc signé cette nuit pour nous un courrier qu'ils ont transmis à l'ensemble des responsables des institutions de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux parlementaires calédoniens. Un courrier qui fait en quelque sorte suite au communiqué publié hier par les loyalistes et le Rassemblement, et dont nous avons parlé dans nos précédentes éditions, Michael Juneski.
Le Premier ministre et le ministre des Outre-mer qui débute ce courrier avec un constat, et je cite: à la suite de la séance du Congrès du 26 décembre dernier, la troisième conditionnalité permettant le versement de l'aide de l'État d'un montant de 231 millions d'euros, 27,5 milliards de francs, prévu dans le protocole d'accord entre la Nouvelle-Calédonie et l'État, n'a pas été adoptée. François Bayrou et Manuel Valls, qui poursuivent ainsi: une application stricte de ce protocole aurait dû conduire à remettre en cause le versement de cette aide, dont le Congrès avait souhaité qu'elle ait lieu en une seule tranche. Néanmoins, et pour regrettable que soit cette absence de vote, écrivent encore le Premier ministre et le ministre des Outre-mer, cette situation aurait fait peser en particulier sur les provinces et les communes des conséquences financières majeures. Et de citer l'interruption à brève échéance du fonctionnement des services publics de proximité essentiels et de systèmes d'aide sociale indispensables aux plus défavorisés des Calédoniens. Le non-versement de cette somme aurait également aggravé les difficultés des comptes budgétaires et sociaux de la Nouvelle-Calédonie au moment où les acteurs locaux ont besoin de visibilité et de stabilité, écrivent encore François Bayrou et Manuel Valls, qui poursuivent ce courrier ainsi, je cite encore: nous avons décidé, considérant que deux des trois conditionnalités requises avaient été adoptées et que la plupart des forces politiques au Congrès étaient engagées dans une démarche de soutien aux réformes proposées, que l'aide de l'État serait débloquée à la hauteur des deux tiers de l'enveloppe initialement prévue, ce qui représente 154 millions d'euros, soit un peu plus de 18 milliards de francs, comme nous vous le disions dans nos précédentes éditions. Dans leur courrier, le Premier ministre et le ministre des Outre-mer indiquent de manière très claire que sur cette somme, et je cite de nouveau ce courrier, 125 millions d'euros, soit 14,9 milliards, seront destinés aux provinces et aux communes. Le solde, soit 3,4 milliards de francs, relèvera dans sa répartition précise d'une appréciation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. François Bayrou et Emmanuel Valls qui indiquent clairement également que ces 3,4 milliards de francs devront notamment, et je cite, financer le RUAM, le chômage classique et apurer la dette envers Enercal. Fin de citation de ce courrier signé du Premier ministre François Bayrou et du ministre des Outre-mer Manuel Valls.
Durant cette période de fête, la police nationale met en garde les mauvais comportements sur nos routes. Les contrôles vont se multiplier. Par ailleurs, les conducteurs qui utilisent des systèmes de sonorisation surpuissants sur leur voiture prennent le risque de voir leur véhicule confisqué. De manière générale, les forces de l'ordre seront vigilantes à toute conduite à risque. Les précisions de Marjorie Ghisoli, la nouvelle directrice territoriale de la police nationale.
C'est vrai qu'on se rend compte depuis quelques temps là, qu'il y a une reprise de conduite et de comportement inapproprié et puis délinquentiel pour certains, et qui pose bien évidemment des problématiques de sécurité routière, mais aussi de bruit et de nuisance. On multiplie les contrôles, on multiplie en soirée et en nuit, non seulement les rappels, mais surtout les interventions, les interpellations, là où certains croient que la route leur appartient et qu'on peut faire du drift, on peut mettre de la sono à fond, sans qu'il n'y ait, je dirais, aucune conséquence. Or, des conséquences, il y en a pour les riverains, il y a des conséquences pour les automobilistes. Et c'est vrai que depuis plusieurs jours, eh bien, on fait de l'interpellation, des gardes à vue, on saisit du matériel. Bien évidemment, sous l'autorité du parquet, eh bien, on poursuit ces conducteurs qui, encore une fois, prennent la route pour leur propriété. Tout ça, sous l'autorité du procureur, ça fait des procédures judiciaires, des poursuites en justice, des passages devant le tribunal, sans oublier qu'on saisit le matériel, qu'on met en fourrière les véhicules qui ne respectent pas les conditions de circulation, confiscation et destruction des matériels qui ont permis de commettre l'infraction.
Les forces de l'ordre qui avertissent, elles sont intervenues sur 7 affaires de ce type en l'espace de 4 jours. Des cas ayant occasionné des gardes à vue, les contrôles vont donc se multiplier durant les fêtes. C'est le dernier week-end avant le passage à la nouvelle année. Dernier congé hebdomadaire avant la Saint-Sylvestre. L'affluence reste constante, notamment sur les marchés, comme c'était le cas ce matin à Nouméa, notamment sur les stands de poissons et de fruits de mer, Michael.
Mollusques et crustacés en tout genre, délices du réveillon pour le repas de fin d'année. Les poissons et surtout les fruits de mer restent très prisés, à en croire ses clients rencontrés au marché de la baie de la Moselle.
Ça prépare les fêtes, ça travaille jusqu'au 31, alors je fais déjà les courses maintenant. Je pense déjà maintenant, c'est la dernière minute. Je serai ici sur Nouméa, donc je peux m'offrir que des crevettes. On va dire ça comme ça. On va dire que c'est le truc primordial à avoir sur la table. Au moins des crevettes.
Des crevettes.
Ça fait envie pour les fêtes.
Toute l'année, moi, j'en prends. Le dimanche, je viens, je prends au poisson ou crevettes.
Comme on a trop mangé le 24, du coup, on lève un peu le pied pour...
Plus simple.
Ouais, plus simple.
On est venu juste pour prendre un peu de poisson, changer de la grillade qu'on a eue pour le 25. Et donc là, on vient chercher du poisson. Bon, après, on regarde aussi le prix. Hein.
J'ai du poisson, des langoustes, voilà.
Ça fait plaisir d'emmener bébé en plus voir un peu tout ce qu'il y a.
Oui, voilà, il y a la découverte, c'est l'âge où il découvre et puis voilà, il est intéressé, voilà, c'est ça.
On vient visiter le marché.
Des poissons, des crevettes et poulpe, langoustes.
Vous aimez bien manger ça?
Oui.
Bah moi je les accompagne pour que justement ils visitent le marché, qu'ils prennent l'habitude d'y venir. Parce que l'accueil est vraiment bien, c'est sympa, il y a de tout, on a nos habitudes.
Et parmi les stars, les crevettes bien sûr, mais aussi la tentation des huîtres qui se fait ressentir, comme nous l'a dit Yoli, vendeuse sur le marché de la Moselle.
Les crevettes, les filets de perroquet, ben, tout ce qu'il y a. Bon. Les huîtres de Caraïpa, qui viennent de Nouvelle-Zélande, c'est excellent. Il y a ceux de France et ceux de Nouvelle-Zélande.
Et la star reste la fameuse langouste, rare et précieuse, mais elle attire toujours les clients en quête d'un mets d'exception. Pour l'occasion, pour le plus grand plaisir de Matei, pêcheur qui a vu le stock du jour très vite écouler.
Après, on fait surtout du lagonnaire. Les langoustes, oui, l'Angers, pour les fêtes, ça marche bien. C'est juste que ben, l'Angers, là, on a presque tout vendu, reste que les grosses.
C'est tout parti aujourd'hui?
Oui, l'Angers, dès le matin, l'Angers, les clients, ils viennent puis ils prennent plein. Sinon, le reste de l'année, ça marche pas plus que ça.
C'est des langoustes qui viennent de où, ça?
L'île des Pins, Yaté.
C'est des belles bêtes, en tout cas.
Et il y en a, elles font des 700, ça peut aller de 700 grammes à 3 kilos. La plus grosse qu'on a vendue pendant les fêtes, elle faisait 5 kilos et quelques.
Du coup, ça se passe bien pour votre activité?
Oui, l'enjeu, ça y est, on gagne bien.
Et pour information, à Nouméa, notez que le marché municipal de la Moselle sera exceptionnellement ouvert demain, lundi, à la veille de la Saint-Sylvestre.
Il est midi et 9 minutes, on va marquer une première pause dans le journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Des problèmes de termites de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termite. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Info Weekend. On retrouve Lionel Sabot.
Et François Bayrou qui reporte son déplacement à Mayotte d'une journée. Le Premier ministre est attendu sur place demain soir pour nous. François Bayrou sera accompagné pour ce déplacement de 5 de ses ministres, dont le ministre des Outre-mer Manuel Valls et la ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne. En marge de ce déplacement à Mayotte, le chef du gouvernement a signé il y a quelques heures une circulaire afin de recenser les besoins des fonctionnaires à Mayotte. Le Premier ministre qui veut inciter les agents à rester dans l'archipel afin de garantir bien évidemment la continuité de l'action de l'État. Mais avec les conditions de vie sur place, les choses s'annoncent compliquées. Écoutez à ce sujet l'économiste Philippe Jean-Pierre.
La problématique de la vie chère ou du surcoût de la vie, on va dire, dans les départements d'outre-mer est un problème généralisé, pas propre à Mayotte. Néanmoins, cette problématique mahoraise est renforcée par le fait que Mayotte est quand même un territoire plus isolé que d'autres territoires d'outre-mer, donc avec des aménités, des qualités de vie, des services qui ne sont pas forcément ceux que vous pouvez déjà rencontrer dans d'autres territoires, et qui fait que l'avantage de la surrémunération des 30% ne permet pas de compenser tout un ensemble d'autres inconvénients, et cela est à mettre dans la balance, et ce déséquilibre, on va dire, est renforcé aujourd'hui par la dégradation de la qualité de vie.
Philippe Jean-Pierre, invité d'Europe 1 Week-end ce matin. Le dernier bilan humain après le passage du cyclone Chido, c'était il y a tout juste 15 jours à Mayotte, fait état de 39 morts et de 4000 blessés. Un bilan qui reste provisoire. En bref, pour pallier la non-reconduction du ministère chargé de la famille et de la petite enfance au sein du gouvernement de François Bayrou, Emmanuel Macron a indiqué qu'un haut commissariat à l'enfance serait mis en place dès le mois de janvier. La protection des plus jeunes est au cœur de mon engagement. Elle le restera pour les 30 prochains mois, écrit le chef de l'État dans un post sur X. Une vingtaine d'associations réunies au sein de la Dynamique pour les droits de l'enfant avaient dénoncé la disparition du ministère chargé de la famille, alors que la protection de l'enfance est en crise et que la pauvreté infantile augmente. En France, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté et 160 000 sont victimes de violences sexuelles chaque année, selon le collectif d'associations. Et puis dans un entretien au Parisien, le nouveau ministre de la Justice, Gérald Darmanin s'est dit favorable à un isolement renforcé en détention des plus grands narcotrafiquants et à la construction de nouvelles prisons. J'ai demandé à l'administration pénitentiaire de me faire la liste des 100 plus grands narcotrafiquants écroués, ceux susceptibles d'avoir des contacts à l'extérieur pour poursuivre leur activité criminelle, et nous les mettrons à l'isolement comme on le fait pour les terroristes, indique Gérald Darmanin dans cet entretien. L'actualité à l'étranger et la Russie pointée du doigt par l'Union européenne après le sabotage d'un câble sous-marin reliant la Finlande à l'Estonie. L'Allemagne a appelé cette nuit pour nous ses partenaires européens à prendre de nouvelles sanctions contre Moscou en parlant, après ce sabotage, de signal d'alarme inquiétant. En l'espace de quelques semaines, ce sont 3 câbles sous-marins qui ont été endommagés. Des incidents qui se sont multipliés depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a maintenant presque 3 ans. Johan Madec pour Europe 1.
Impossible de dire avec certitude s'il s'agit d'un sabotage intentionnel ou d'accident. Hier, l'OTAN a donc annoncé le renforcement de sa présence militaire dans la Baltique. Mais pour surveiller des milliers de kilomètres de câbles efficacement, il faut des drones, des patrouilles maritimes et même de la détection satellitaire. Le tout actif en permanence, ce qui représente un défi financier considérable, souligne Cyril Brett, chercheur à l'Institut Delors et auteur d'une note sur la sécurisation de la Baltique.
Il faut tout simplement consacrer plus de ressources en personnel, en argent et en moyens à la protection de ces infrastructures. C'est un défi capacitaire, c'est un défi de quantité, c'est un défi d'investissement pour surveiller et pour dissuader toute atteinte à ces infrastructures critiques.
Le chercheur rappelle aussi que même en dehors des attaques, ces câbles tombent souvent en panne, que ce soit à cause du trafic maritime ou à cause de l'hostilité du fond des mers.
C'est comme quand on est dans le cyberespace. L'attribuabilité et la connaissance du mode opératoire est quasi impossible.
Une opacité qui permet de brouiller les pistes et d'être menaçant sans se lancer dans des attaques plus directes, même si attaquer ces câbles est une opération très complexe, souligne le chercheur.
Laisser dériver une encre au bon endroit, à la bonne profondeur, avec la bonne masse pour endommager un câble de ce type-là, ça nécessite des opérations de reconnaissance, de collecte d'informations, d'adaptation des moyens et de navigation qui sont très sophistiqués. C'est une vraie démonstration de force si c'est un sabotage.
Dernier avantage pour la Russie, montrer qu'elle peut aussi gêner des pays plus éloignés en ciblant les infrastructures de communication. Et c'est évidemment le cas de la France, qui est l'un des points d'entrée principaux des câbles sous-marins en Europe.
Yann Malek du Service international d'Europe. Et puis on le disait il y a un instant, ça fait maintenant près de 3 ans que la guerre menée par la Russie en Ukraine a débuté. Et à quelques jours de son investiture à la Maison-Blanche, ce sera le 20 janvier prochain, Donald Trump, le président élu des États-Unis, a une nouvelle fois indiqué qu'il était prêt à rencontrer Vladimir Poutine pour trouver une issue à ce conflit. Écoutez à ce sujet le grand reporter Régis Le Sommier.
Donald Trump a pour objectif de terminer cette guerre et c'est lui qui offre une négociation quelque part à Poutine. Donc ça veut dire que ça va se faire. Maintenant, ça va se faire en comment ? Et est-ce que Poutine, actuellement, alors que ses troupes sont à l'offensive et gagnent du terrain, va-t-il être intéressé par le fait de geler le front, de s'imaginer que peut-être l'OTAN va investir à nouveau dans l'Ukraine et que dans quelques années, il va y avoir à nouveau une guerre ? Et pour les Ukrainiens, c'est la même chose. Je me mets à la place des Ukrainiens qui ont un peu l'impression d'être manipulés dans cette histoire, parce que pour eux, ça veut dire quoi ? Si ça s'arrête là et qu'il y a un des pourparlers de paix, rien ne dit que les Russes ne recommenceront pas à passer à l'offensive dans quelques années.
Régis Le Sommier, joint par nos confrères d'Europe 1. Quelques mots de l'actualité dans la région Pacifique et dans l'État australien du Victoria. Des centaines de pompiers profitent de conditions météo favorables pour tenter de contenir le vaste incendie et qui a déjà détruit près de 80 000 hectares de forêt dans le parc national des Grands Pions. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
D'après un premier bilan provisoire, 3 maisons ont été détruites dans cet incendie, de même qu'une douzaine de hangars, du matériel agricole, des ruches et des centaines de kilomètres de clôture. Des pertes considérables ont aussi été constatées au niveau du cheptel. Plusieurs tours de télécommunications situées sur les hauteurs ont également été gravement endommagées. Des centaines d'habitants de la région dévastée ont été autorisés à rentrer chez eux hier, mais ont toutefois été avertis qu'ils seront à nouveau évacués si les circonstances l'exigent. Dans les médias, des centaines de pompiers volontaires ont allumé des pare-feux et établi des couloirs de protection à la périphérie des localités les plus exposées. Ceci en prévision du retour de conditions météo défavorables dans les prochains jours. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et précisons que le Premier ministre australien Anthony Albanese est attendu dans la région des Grands Pions dans les toutes prochaines heures. Il est 12h18, une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, on parle sport.
Cette année, votre champ Kéferi vous fait le plus beau des cadeaux. On vous simplifie les fêtes. Plateau de fruits de mer, foie gras maison, menu gourmand de l'apéritif au dessert, plateau de charcuterie, fromage et de délicieuses préparations bouchères, nos équipes mettent leur savoir-faire à votre disposition. Passez commande au 24 30 60 ou directement dans votre champ Kéferi.
Jusqu'au vendredi 10 janvier, gagnez un Samsung S24 d'une valeur de 99 000 francs offert par Connect Multimédia. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Depuis plus de 10 ans à vos côtés, Connect Multimédia, c'est 2 points de vente pour plus de confort et une équipe dynamique à votre écoute. Téléviseur, hi-fi, téléphonie, objets connectés, smartphone, informatique, tablette, instruments de musique. Connect Multimédia vous accueille à Ducos du lundi au samedi et au quartier Alma du lundi au dimanche. Alors, pour gagner ce magnifique S24, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort, vendredi 10 janvier à 14h. 371 francs par SMS.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Weekend avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le sport avec du tennis pour commencer. Le rendez-vous ce dimanche est au Wentworth que ça se passe avec les premiers matchs du BNC Tennis Open. On parle bien évidemment de matchs de qualification et vous êtes sur place Léo Fichou.
Et oui, effectivement, les 6 premiers matchs du Challenger de Nouméa, c'est la 20e édition,
C'est donc aujourd'hui avec les premiers matchs de qualification. Mais avant de vous parler de ces matchs, je suis avec le directeur du tournoi, Olivier Ledain. Olivier Ledain, bonjour.
Bonjour.
Un tournoi qui démarre plutôt bien aujourd'hui.
Mais écoutez, il fait beau, tout est en place. Il reste quelques petits aléas de début d'événement, mais tout est en train de se régler. Donc on a eu des petits problèmes d'affichage d'écran de scoring ce matin, mais tout est désormais réglé. Donc on a le match de Jalan Salin-Wilmont qui va démarrer. Donc on va être encore plus attentif qu'au début de la matinée pour suivre ça.
Oui, les Calédoniens qui vont rentrer en piste. Et il y a déjà du monde ce matin pour les premiers matchs et ça arrive petit à petit encore.
Oui, on sait que le dimanche est toujours une journée relativement calme sur le tournoi. Donc voilà, il y a un petit peu de monde. Les tribunes sont loin d'être pleines pour l'instant. On pense qu'elles vont se remplir au fur et à mesure de ce début d'après-midi, de 7h de midi avec le match de Jalan Salin-Wilmont, puis celui de Liam-Branger après. Voilà, et puis on risque d'avoir au programme, on devrait avoir au programme demain soir. Et Benoît Paire et Adrien Manarino. Donc là, je pense que les tribunes seront complètement pleines.
Merci beaucoup, Olivier. Donc avant d'arriver à ces matchs du tournoi, du tableau principal, il y avait donc deux matchs qui sont déjà terminés ce matin, les matchs de qualification, avec le Tahitien Antoine Voisin qui s'est incliné face au Français Théo Ribagé, spécialiste du double, en 2-7, 6-3, 6-0. Et puis dans l'autre match qui s'est déjà terminé, un autre Tahitien s'est également incliné, Gian Osmond face à l'Australien Blake Baildon, 2-6, 1-6. On retrouve donc dans cette deuxième rotation qui vient de commencer un Calédonien, comme on le disait, avec peut-être un peu plus de monde dans les tribunes pour l'encourager, la famille, les amis qui vont venir voir Jalan Solin, Wilmont, 16 ans seulement, qui affronte également un Australien, Cade Birrell, et il peut compter donc sur le soutien des Calédoniens qui sont déjà présents et qui vont venir l'encourager. De l'autre côté, duel entre Francisco Cabral, le Portugais, et Adrian Arcon, notre Australien, et ensuite on terminera cette journée avec deux dernières rencontres, une dernière rotation, un Calédonien d'adoption, Liam Branger, dont la famille nous disait est installée sur le Caillou depuis une trentaine d'années. Il connaît bien Nouméa, il connaît bien ces terrains sur la Ligue Wentoro. Il jouera contre l'Australien Adam Taylor, pendant que Shinji Azawa, le Japonais, défiera le natif d'Adélaïde, Lawrence Batalgin. Le vainqueur de ce dernier match sera directement qualifié pour le tableau principal. Les autres vainqueurs devront disputer un second match de qualification demain, avant, bien sûr, le tableau principal. Depuis le BNC Tennis Open au Wentoro, Léo Fichou, RRB.
Merci Léo, on vous retrouve ce soir bien évidemment dans notre édition de 17h45 pour faire un point sur les résultats. On passe à la voile, la 79e édition de la Sydney Hobart. L'équipage calédonien de Pulpito est toujours dans la course, Michael Juneski.
Exactement, Pulpito, MNSSCD qui garde le cap vers la ligne d'arrivée. Le navire se trouve actuellement à quelques 220 km de la fin de l'épreuve. Il pointe à la 7e position du classement IRC3 au dernier pointage. Attention, hein, la course est très serrée, ça bouge tout le temps avec les autres concurrents. La lutte fait rage au large de la Tasmanie. Pulpito qui occupe également la 2e place, cette fois dans la catégorie des modèles de Sydney 38 sur 6 autres voiliers identiques qui étaient au départ. Ils ne sont désormais plus que 4 dans l'aventure sur ce type de bateau. Alors pour le moment, hein, je rappelle que seuls 10 navires sont arrivés à bon port à Hobart. 30 participants ont déjà dû en revanche abandonner sur plus de 100 voiliers qui étaient au départ. Nous en sommes maintenant exactement à 2 jours et 23 heures de course.
Du Pacifique à l'Atlantique, toujours de la voile. Et Johan Richaume qui accentue son avance en tête du Vendée Globe.
Oui, à bord de Paprec Arkea, le skipper possède désormais près de 120 000 nautiques d'avance sur Charlie Dalin. À bord de Massif Santé Prévoyance, le leader et le deuxième de la course qui sont à un peu plus de 5 000 nautiques de l'arrivée. Il navigue actuellement au large de l'Uruguay. En troisième position, on retrouve toujours Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil. Il est à 670 000 nautiques du leader. Une 48e journée de course marquée par l'avarie subie par Yannick Bestaven sur Maître Coq 5, le tenant du titre. 11e sur cette édition du Vendée Globe, a prévenu son équipe de cette avarie sur sa barre. Il a également perdu son palonnier, ce qui rend son bateau désormais complètement indirigeable.
Et en métropole, le rugby fait son Boxing Day avec la 13e journée du top 14.
Et en match d'ouverture, dans un duel de mal classé, c'est la section paloise qui s'est imposée sur le promu breton Vannes. Victoire de Pau sur le score de 48 à 24. De son côté, l'Aviron bayonnais a largement dominé le Castres Olympique, 33 à 12. Montpellier est allé s'imposer imposé à l'extérieur sur le terrain de Clermont sur le score de 22-18. Et enfin, l'UBB, solide leader, est venu à bout de Toulon 21-17. Alors, la nuit prochaine, il y aura encore des rencontres à suivre. Également demain matin, à partir de 2h, le Racing recevra le Lyon Olympique Universitaire. Puis, à 4h, le Stade Rochelais se déplacera chez les Catalans de Perpignan. Et enfin, à 7h05, en match de clôture de cette 13e journée, duel de stadistes, le Stade Toulousain qui fera face au Stade Français.
Allez, jeu 7 et match, il est midi 25, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 13h. Bel après-midi.
Merci Lionel.